J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
19h-20h.
Heureusement que j'ai des nerfs, sinon... Vous imaginez, si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, qu'elle est moche.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle.
Bon, la part, nous sommes avec nos camarades, donc Bertrand Burgala, Carole Beffa, Marc Lambron et Josiane Savigno. Nous allons parler d'un génie de la musique. Il s'agit d'Eric Satie, celui qui a amené, d'une certaine manière, le minimalisme dans la musique, non seulement de la fin du 19e siècle, mais aussi tout au long du 20e siècle, car les Américains, comme John Cage, voire même la New Wave, se revendiquent d'Eric Satie. Mais avant de bavarder, de raconter cette histoire qui passe par Paris, Honfleur, Arcueil, une petite chambre misérable où il a fini sa vie avec quelques costumes, comment ne pas écouter ces morceaux qui l'ont rendu archi-célèbre dans le monde entier, Katia Labeck au piano en 2009, la gymnopédie numéro 3. Et puisque nous allons parler d'Eric Satie, une certaine forme de recueillement, en tout cas au début, car après les bavards vont entrer en scène, mais ce ne sont pas des bavards inutiles, Marc Lambron, Bertrand Burgala donc et Carole Beffa, voici l'une des œuvres caractéristiques, certaines ont été d'ailleurs orchestrées par Debussy, la Gnossienne numéro 3, et c'est Fazil Say qui est au piano, nous sommes en 2016.
Thank you.
Voilà, lentement, nous sommes tous pris par cette musique. Petit tour de table, évidemment, à Bertrand, Carole et Marc. C'est vrai que Satie, c'est un personnage tout à fait particulier dans l'histoire de la musique. J'allais dire un peu branque. On le voit passer par les Rose-Croix, une enfance entre Paris et Honfleur, une vie familiale un petit peu agitée, une misère absolue alors qu'il connaissait le tout Paris. Il marchait à pied entre Arcueil, cette petite pièce qu'on a retrouvée où il était enfermé seul, sans finalement de fiancée tout au long de sa vie, avec quelques costumes qu'il achetait de temps en temps et qu'il stockait dans une armoire, point barre, et pourtant donc des morceaux qui lui ont survécu, très largement survécu, et qui ont influencé la musique mondiale. Je vais commencer par le savant des savants, à savoir Beffa. Pourquoi Satie, justement, traverse-t-il le temps, ou a-t-il traversé le temps avec autant de... Bah de sagacité, de voilà, je ne cherche pas, j'arrive en fabouillé, comme on dit chez les gosses, c'est-à-dire avec une sorte de prévision de l'avenir dans l'économie de moyens.
Peut-être parce que, alors il disait de façon un peu ironique dans sa jeunesse qu'il était né trop jeune dans un monde trop vieux, et il est mort trop vieux dans un monde trop jeune. C'est-à-dire qu'il y a chez lui quelque chose d'un peu intemporel dans cette façon, à partir d'harmonies souvent extrêmement simples, ses adversaires diraient à tort simplistes, à imaginer un certain type de climat hypnotique. Et ce climat hypnotique, qui est très étranger à la fois à la musique romantique, à la musique classique aussi, qui est assez peu hypnotique, mais moins étrangère à la musique baroque, par exemple. C'est une chose qu'après lui, on va retrouver dans quantité de musique, qu'elle soit de facture savante, avec tous les guillemets d'usage, ou qu'elle soit plutôt populaire. Et je pense que c'est lié à ça, ce caractère d'envoûtement, s'y mettre dans cette musique, le fait que l'on ait l'impression d'avoir une espèce d'horizon d'attente qui n'est jamais totalement atteint, vers lequel on va et qui se déploie toujours un peu plus loin. Ça, ça fait partie des choses que bien des chanteurs de variété, que bien des compositeurs de jazz, de pop, vont savoir utiliser.
C'est pour ça que vous avez écrit sur lui ?
C'est peut-être pour ça. D'abord, je crois que c'est un compositeur qui peut plaire aux enfants. Sa musique, dans laquelle il y a quantité de tubes, est une musique qui peut plaire à des enfants. Et puis, il a une vie quand même qui est assez drôle. C'est l'homme au chapeau melon, c'est l'homme qui a un monocle, c'est l'homme qui ressemble un peu à la fois à un satyre, à Socrate. Alors, satyre, c'est peut-être pas la meilleure chose à mettre en avant quand on veut parler à des enfants, mais...
Éric Satyre.
Et c'était Éric Satyre. Satyre.
Et puis, il était grinçant.
Et il était satirique.
Voilà. Donc, les pianos, c'est comme l'échec, ça ne plaît qu'à ceux qui les touchent. C'est quand même une forme extraordinaire.
Bon, puis je me suis dit aussi que pour des enfants, pour lesquels nous avons écrit, donc Guillaume Métayer et moi, ce collectionnaire de parapluies avait quelque chose d'assez fascinant.
Fascinant. Nous allons écouter maintenant, alors ça c'est une des caractéristiques du monde moderne, un jeune pianiste français qui porte un nom évidemment de code, qui s'appelle Ryopi, qui est parti donc de France pour aller vivre en Angleterre. Un jour il tombe sur Chris Martin de Coldplay, il trouve que sa musique est intéressante et qu'il lui offre un Steinway. Et puis il vient de sortir un album qui s'appelle Thrive, après avoir collaboré avec Lana Del Rey. Et cet album, eh ben, il est pratiquement en tête de tous les billboards de musique classique dans le monde entier. Voici par exemple une version de Satie adaptée à l'endroit où maintenant vit Ryopi, c'est-à-dire le Portugal, Costa da Caparica.
Thank you.
Bertrand, je me disais aussi d'abord bienvenue et merci. Nous sommes ravis de vous retrouver sur l'antenne de Radio Classique dans Bonaparte.
Moi aussi.
Chez vous. Est-ce que vous partagez justement le même avis que notre camarade, à la fois la loufoquerie, en même temps le contre-temps par rapport à son époque? Au départ, nous sommes dans les années 1870-1880, c'est pas franchement la musique de Satie qui domine. Et puis cette forme de poésie, d'élégance, de minimalisme.
Alors, Guillaume, je partage tous les avis de Carole, même parfois quand je découvre ses avis. Et là, j'apprends des choses avec lui. C'est ça qui est passionnant. Il a tout à fait raison. Et ce qui est marrant aussi, c'est que en entendant Monsieur Riopi, en fait, Satie me fait un peu penser au Velvet Underground dans sa place aujourd'hui. C'est-à-dire que le drame, ce sont les compositeurs qui se réclament de lui. Et la façon dont ils peuvent parfois le caricaturer et qui pensent qu'il suffit de faire simpliste et non simple et clair, ce qui est plus difficile, pour que ce soit, disons, satien. Et ça, il y a le même phénomène avec Philip Glass. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que répéter la même mesure à l'infini suffit à faire une musique répétitive, glacienne, alors que c'est beaucoup plus subtil. Et je trouve que Satie, c'est merveilleux. Et je crois, Carole, qu'en plus, tous les compositeurs de sa génération, les Ravel, le tenaient en très haute estime. C'est-à-dire que ceux qui faisaient une musique beaucoup plus élaborée dans les orchestrations étaient très admiratifs de son talent.
C'était effectivement le cas de Debussy, qui a orchestré une partie de sa musique, qui était assez proche, qui partageait son sens de l'ironie. C'était le cas de Ravel aussi.
Il y a eu une phrase terrible sur Ravel. Hein, ouais. Toute sa musique réclame la Légion d'honneur. C'était pas agréable non plus.
C'était même pire que ça. C'est-à-dire que Ravel refuse la Légion d'honneur et ouais. Satie dit Ravel refuse la Légion d'honneur mais toute sa musique l'accepte.
Ouais.
Ce qui est à mon avis totalement injustifié. Mais ce genre de petite pique qui faisait qu'il avait des brouilles avec quantité de ses confrères, effectivement, c'était à peu près une chose qu'il disait tout le temps. Alors, il était proche de bien des compositeurs de sa génération, assez éloigné, on peut s'en douter, de Camille Saint-Saëns, qui le détestait, pas particulièrement proche de Fauré, chez qui il y a pourtant une certaine...
Mais il y a déjà le côté répétitif.
Exactement, il y a ce côté répétitif. Il y a des harmonies parfois relativement simples, mais avec une façon de les agencer toujours incroyablement savoureuse chez Fauré. Enfin, bref, c'était un compositeur clivant, on n'aurait pas dit ça à cette époque, mais c'est un mot d'aujourd'hui que l'on pourrait, à mon avis, lui attribuer. Il y a quelque chose d'assez curieux dans ce compositeur qui, au temps où le romantisme et le post-romantisme brillent encore de ces mille feux, anticipe de 20-30 ans sur le groupe des Six, par exemple, sur Cocteau, sur une esthétique antipathétique, anti-romantique, pour imaginer quelque chose qui soit une réaction puissante à la boursouflure, au pathos, à la grandiloquence.
Alors Bertrand n'était pas là la semaine dernière, mais c'est vrai que nous nous sommes livrés à une petite bataille assez rigolote sur les morceaux qui nous exaspéraient, y compris à propos de compositeurs que nous avons ou que nous adorons. Par exemple, nous avons flingué gentiment, mon cher Bertrand, l'ouverture de Tannhauser, si ma mémoire est bonne. Je me suis occupé de Berlioz, à titre personnel. Marc a aussi tapé sur une musique qui peut parfois paraître grandiloquente, ce qui ne veut pas dire que toute cette musique de ces grands compositeurs et grandiloquente, bien au contraire. Mais alors là, on est vraiment en pleine rupture avec Satie. Voici ce qu'a choisi Bertrand. Et après, Marc nous donnera son point de vue, car on l'attend avec impatience. Wim Mertens, Close Cover, c'est la BO du film Le Ventre d'architecte de Peter Greenaway, le réalisateur britannique, qui a fait beaucoup de films sur les peintres, ce qui est assez rare dans le monde du cinéma. Ça date de 87. Thank you. Avec Wim Mertens, nous voyons que l'inspiration est là, mais pour aboutir, Bertrand a autre chose, justement, une création.
Oui, je trouve Peter Greenaway était très à la mode il y a 35 ans, et cette BO du Vent de l'Architecte était signée de Michael Nyman. Dans cette BO, il y avait ce morceau de Wim Mertens, et c'est un peu un contre-exemple, parce que a priori, il coche toutes les cases de ce qui va pas, dans le côté un peu pastiche, un peu fausse, enfin simplicité, comme ça, mais je trouve qu'il y a quand même une émotion. Il y a un autre morceau qui me fait penser à ça, et c'est une découverte récente pour moi, c'est la valse d'Amélie Poulain par Yann Tiersen, parce que le film et le morceau, vous le savez, sont responsables de la flambée du marché immobilier dans l'eau du 9e arrondissement, et bas du 18e. Quand on l'entend dans le métro, je l'entends souvent à l'accordéon, je peux pas dire que je suis un fan. Et ma fille le joue actuellement au piano. Mm-hmm. Quand on l'entend au piano, on se rend compte que le cliché un peu Amand Saint-Jean, le cliché Paris de carte postale disparaît. Et c'est un morceau assez... Là, ça tient, finalement, très très bien. Mmh. Et quand on enlève justement cette carapace un peu de muséal d'un Paris de musée, c'est un morceau un peu comme celui de Wim Mertens, qui est finalement assez dans l'esprit.
Voilà, en plus, la carrière de Satie est assez paradoxale. Donc je le disais, chrétien, Rose-Croix, il est passé par le Parti Socialiste, enfin la CCFIO de l'époque, il a été au conservatoire jugé extrêmement médiocre, et puis vers la fin de sa vie, après l'économie de moyens, il prend des cours de composition, je pars sous le contrôle bien évidemment de notre camarade Carole Beffa, avec Vincent Dindy, à qui il rendra un hommage considérable. Mais nous allons encore faire un détour, ça tient, par Arthur H, le fils d'Igelin. La chanson de Satie, extrait de l'album Adieu Tristesse, et c'est Marc Lambron qui va enfin s'exprimer.
Je voulais te dire encore
sur H, la chanson de Satie. L'album s'appelle Adieu Tristesse et date de 2005. Marc.
Satie, je le comparerais volontiers à Charlie Chaplin. C'est-à-dire que Chaplin est quelqu'un qui va destituer le héros ronflant du 19e siècle romantique pour installer à l'orée du 20e siècle le personnage cardinal qui est le vagabond, le mendiant, enfin ou le hobo, le migrant, et
l'Eastend de Londres.
Voilà, et l'Eastend de Londres en effet. Donc les bas quartiers plutôt que la gentry. Eh bien, je crois que Satie est quelqu'un aussi qui destitue en quelque sorte qui fait descendre de son piédestal, et notamment de son piédestal wagnérien, le compositeur ou le musicien du 19e siècle, et qui va vers cette manière antipathos, assez sèche, mais étrangement affective, parce que c'est aussi une musique finalement assez sentimentale, et qui en même temps est annexé par l'avant-garde et les plus jeunes, c'est-à-dire qu'en 1917 il va y avoir Parade, et Parade c'est Cocteau et Picasso, Et dans Entracte de René Clair, donc le film muet, il apparaît également comme un personnage burlesque qui saute sur un toit de Paris en tirant la bombarde, en tirant le canon. Alors d'où ensuite ces avatars et là, alors Arthur H, en fait c'est la Gnossienne numéro 1 de Satie, qui est revisité, qui est samplé, dirait-on, avec une chanteuse qui s'appelle Leslie Feist. Alors, là, c'est le Satie gainsbourgien. C'est-à-dire, vous entendez le scratch, vous entendez les cordes de Jean-Claude Vanier, une espèce d'orientalisation du thème de la Gnossienne. Bon, et des paroles qui valent ce qu'elles valent. Je t'en prie, chante-moi ce vieillard français, cette mélodie d'Eric Satie. Je crois que c'est ça.
Nous allons écouter Jean Cocteau, justement. En 1917 est créé Marguerite de Dior au Châtelet par Diaghilev, le ballet Parade. Les décors sont signés Picasso. Satie écrit la musique et Jean Cocteau le livret. Ce que Cocteau disait de Satie, le voici en quelques secondes sur une musique de Parade, d'ailleurs, qui est interprétée par le Royal Philharmonic Orchestra.
Satie avait fait ses études à la Scola Cantorum. Et il vivait parmi les impressionnistes, mais sa musique s'opposait à la musique impressionniste parce que au lieu d'être floue et frissonnante et en sourdine, sa musique était linéaire et sans sauce, sans voile, au point que quand les musiciens d'orchestre répétaient Parade, ils croyaient répéter de la musique de Bastringue. J'étais obligé d'amener Ravel pour qu'il leur dise que cette musique était une manière de chef-d'œuvre. Et là, il s'est passé une chose très drôle. Un flûtiste s'est levé et a dit à Satie, « Monsieur Satie, il paraît que vous me trouvez idiot. » Satie répond, « Non, je ne vous trouve pas idiot, maintenant je peux me tromper. »
J'adore.
Cocteau prenait comme un compliment le fait qu'à la première de Parade, une dame était sortie en disant « Si j'avais su que c'était si belle, j'aurais amené des enfants. » Et pour lui, c'est une sorte de légion d'honneur intime.
Il y a une chose, c'est une question que je pose à vous trois, pour les auditeurs de Radio Classique et de Bonaparte, c'est quand même la modestie de Satie dans sa façon de vivre, ses costumes uniques qu'il achetait par 1, 2, 3, 4, 5, sans jamais changer de tenue. Ce qui paraît bizarre à tous ces gens-là, c'est la découverte à la fin de sa vie qu'il vivait, mais parce que tout à l'heure Marc parlait du personnage de Chaplin, il vivait dans une, mais pas dans la misère, il vivait dans une misère noire.
Il vivait dans une misère noire où on a découvert plein de choses à la fin de sa vie, de piano avec
attaché,
totalement désaccordé, une correspondance énorme non décachetée, alors même qu'il avait répondu à des lettres qu'il n'avait pas, oui, voilà, avec à peu près 100 ans d'avance, il avait ressenti cette phobie administrative à la mode aujourd'hui.
L'insalubrité du domicile, quand même, terrible.
Absolument insalubre, avec, je crois, des déjections ici et là. Il y avait aussi donc cette collection de parapluies, d'autres collections un peu burlesques, et oui, c'est cette termite d'Arcueil, puisque c'est à Arcueil qu'on a découvert tout ça, qui...
célèbre maison des examens, pour vous qui en avez passé beaucoup.
Exactement, vous avez tout à fait raison, qui était en réalité à La Place, à la station de RER, et qui n'existe plus si je ne m'abuse.
Mais comment on explique, vous qui avez écrit sur lui, justement, ce destin, non pas de la pauvreté, mais de la misère au milieu de gens célèbres, alors, Cocteau, Picasso...
Tout à fait. Il fait un héritage en 1895, qu'il dilapide en moins d'un an. Il a effectivement des amis, mais ses amis ne sont pas au courant du degré de misère. Donc il dissimule volontiers, avec une tenue qui, vous l'avez dit très justement, est reproduite un peu par sérigraphie pré-warholienne en quantité d'exemplaires. Mais pour rien au monde, il ne ferait l'aumône et leur demanderait quelque argent. Il est relativement dépensier sur certains points, alors qu'il est extrêmement chiche sur d'autres points. C'est l'être des paradoxes, évidemment.
Il compose sur Socrate, mais c'est plutôt Diogène chez les Noailles.
Oui, mais Guillaume, est-ce que simplement, parce que ça paraît difficile pour notre époque, mais peut-être que l'argent ne l'intéressait pas.
Et c'est une bonne question, hein, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais... Et il avait par exemple aussi un goût du titre qui est tout à fait en rupture avec la période du début de sa carrière. Par exemple, voici la valse du chocolat aux amandes. C'est Jean-Yves Thibaudet qui, si ma mémoire est bonne, vit toujours à Los Angeles, qui est au piano, et c'est Carole qui l'a choisi. Thank you. Et puis les innovations comme par exemple Vexation destinée à être jouée 840 fois de suite, c'est-à-dire selon le tempo choisi, entre 12 et 24 heures. Ça a d'ailleurs été interprété par John Cage. Voici un prélude en tapisserie interprété par Pascal Roger au piano, signature Eric Satie avec un K. Voilà, enterrons Satie le 1er juillet 1925, à l'âge de 59 ans, après une très longue maladie, mais ce n'est pas du tout la fin de ce bande à part consacré à ce musicien exceptionnel et original. Le commentaire de Carole qui vient de lui consacrer un livre dont il faut le rappeler le titre, mon cher Carole.
Le château de Monsieur Gymnopède, Sol et Rémi avec Satie.
Voilà, prélude en tapisserie, et donc nous allons écouter la valse du chocolat. Alors, l'une des autres caractéristiques de Satie, c'est qu'on a tendance à ramener tout, pour le grand public, au gymnopédie et à Gnossienne. Alors qu'il a fait beaucoup d'autres choses.
Il a fait quantité de choses, essentiellement pour le piano, un peu pour le piano et la voix. Mmh. Il a d'ailleurs failli supprimer de son catalogue, mais il ne tenait pas forcément en très haute estime l'idée même de catalogue, des pièces qu'il écrit dans sa jeunesse, par exemple pour le Chat Noir.
Mm-hmm. Je te veux, c'est ça?
Exactement, ouais, ouais. Ça c'était déjà un tube en son temps, qui a dû lui rapporter quand même quelques droits d'auteur. Mais une des raisons pour lesquelles nous avions décidé, mon coéter Guillaume Étayé et moi, de nous intéresser à lui, c'est que effectivement il y a certains titres qui peuvent parler aux enfants. Valse du chocolat aux amandes, c'est évidemment succulent, et d'autres titres sont à peu près aussi savoureux que cela, mm-hmm. parce que, par exemple, si vous prenez ce prélude en tapisserie qu'on vient d'entendre, vous avez cette façon très étonnante d'entrelacer des motifs. Très justement, je pense que Bertrand Burgala disait en off que c'était une musique très bien faite, avec effectivement ces thèmes de tapisserie comme un patchwork un peu fantastique. Mm-hmm. Et il y a de la surprise toujours chez Satie, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment avec un horizon d'attente, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais malgré cela, on est surpris. par une chose que l'on, à laquelle on ne s'attendait de toute façon pas.
Vous l'y ajoutez, Bertrand, oui, non, et nous allons marquer une petite pause.
Ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est qu'effectivement, on a l'impression que la musique ne bouge pas. Et c'est pour ça que souvent que c'est caricaturé à une répétition, on répète le début du thème à l'infini quand les gens veulent faire du Satie, mais en réalité la musique change en permanence, mais elle donne l'impression de ne pas changer. C'est ce qu'on retrouve chez les minimalistes après, quand ils font des choses réussies.
Question à tous les trois, qui est assez paradoxale. Le Second Empire, c'est l'arrivée de la richesse, c'est l'arrivée de l'opéra, c'est l'arrivée d'une tension sexuelle. Vous savez que le passionné de Manet que je suis pourrait vous en parler pendant des heures. Et pourtant, deux compositeurs qui sont parmi ceux que vous préférez, Carole et vous deux d'ailleurs, Bertrand et Marc, c'est-à-dire Ravel et Satie, la vie sentimentale, c'est voisin de zéro, voire pour Ravel, zéro. C'est quand même assez curieux de vivre à contrario d'une époque qui commence à se déchaîner juste avant les années folles.
Tout à fait. Alors,
ils avaient Picasso qui comptait pour trois. Ouais, à cet égard.
Bon, c'est juste. Non, chez Ravel, son ancien élève, devenu ami, Manuel Rosenthal, a prétendu qu'il avait des relations hétérosexuelles tarifées, mais les exemples qu'il donne, ou les occasions...
Enfin, jamais de compagne.
Jamais de compagne, et on n'est absolument pas sûr de cela. Lorsqu'il déclare sa flamme à Hélène Jordan-Morange, sa grande amie, en lui demandant si elle veut bien l'épouser, elle lui dit, oh, mais vous n'y pensez pas, mon cher Ravel, comme si il faisait une blague. Et je pense que si son intention était sincère, il a été un peu refroidi.
Bertrand, il y a quelque chose.
Mais, oui, mais ça continue, c'est-à-dire que vous avez des compositeurs, ils peuvent être mariés, ils peuvent avoir une fille de famille, mais ils sont quand même, c'est un art qui demande un engagement énorme. Donc, on voit quelqu'un comme Morricone, tous les jours, il se levait à 4h du matin. Il n'est même pas allé chercher à Cannes une récompense à Cannes parce qu'il n'avait pas le temps. Il fallait qu'il tous les jours de sa vie, de 4h à midi, il ait de la musique. Et il n'y avait rien à faire. Et donc, je pense quand même que cet engagement, c'est important quand même. Et ça n'explique pas tout. Ça n'empêche pas la libido. Mais je pense que c'est...
Oui, encore une fois, on est en rupture avec cette idée du grand compositeur, des murges, séducteur. Romantique.
Il y a une incongruité 1900.
Allez-y, Lambon.
Une incongruité 1900. Il y a un esprit de cabaret qu'on trouve, mais chez Alphonse Allais, par exemple, qui est aussi un plaisantin, en quelque sorte, qu'on trouve dans la peinture de Félix Vallotton. Et l'esprit de cabaret, ne pas oublier aussi que vers 1917, précisément au moment de Satie, c'est là, à Zurich, que va naître le mouvement Dada. Et il y a peut-être aussi une branche, un rameau qui va de Satie vers Dada, via cet esprit d'ironie et de destruction du sens, qui est celle du cabaret.
Bon, la part, en direct, si l'on peut dire, sur l'antenne de Radio Classique, nos camarades sont là, Eric Satie revient.
Ce soir, à 21h, vivez l'émotion des concerts depuis la Fondation Louis Vuitton à Paris. Le jeune pianiste canadien Ryan Wang présente un programme ambitieux autour de grandes œuvres de Liszt, Chopin, Ravel et Haydn. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
Reparlez-moi de ce rêve récurrent. Je sors de chez moi nu. Je suis en retard pour partir sur Mars. J'arrive sur le quai en courant, mais ma fusée décolle sans m'attendre. Furieux, je rentre chez moi et lance un tweet d'insulte. Je pense que ce serait bien de se voir plus souvent. Journal L'Opinion, 10 ans d'analyse. Numéro spécial 10 ans en kiosque du 12 au 21 mai.
Prenez un charmant village du Val-de-Saône, ajoutez un piano, un parc et des transats, incorporez la crème des nouveaux talents du piano et de la musique de chambre, une bonne dose de classique, une pincée de jazz, sans oublier de mettre quelques bouteilles au frais, et vous obtiendrez la 18e édition du Festival des Pianissimes. Du 15 au 18 juin, venez écouter et rencontrer Dana Ciocarli, Gaspard Thomas, Élise Bertrand, le claquettiste Aurélien Lehmann et tant d'autres. Tous les détails sur lespianissimes.com.
Bonjour, c'est Avrudiri. Et si nous partions ensemble pour Milan? À la Scala, bien sûr, avec le lac des Cygnes et le Barbier de Séville. Mais aussi pour visiter la Villa Medici Giolini, la Pinacothèque de Brera et, surprise, une promenade sur le lac Majeur. Beau programme, non?
De la Scala de Milan au lac Majeur, Bel Canto et Dolce Vita avec Eve Ruggieri, un séjour radio classique du 17 au 21 septembre avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Vivez un moment d'exception avec l'or du Rhin de Wagner à l'Opéra Royal du Château de Versailles le 29 mai. Des solistes wagnériens et l'orchestre de l'Opéra de Sarrebruck, dirigé par Sébastien Roulan, réalisent le rêve de Louis II de Bavière, un ring à Versailles. Chef-d'œuvre de Wagner, laissez-vous emporter le 29 mai par les notes épiques de ce prologue en version de concert de la plus célèbre des tétralogies. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr.
Bonjour, c'est Franck Ferrand. Avec le grand pianiste François-Frédéric Guy, je vous donne rendez-vous le 16 mai prochain à la salle Gaveau pour évoquer en mots et en musique Beethoven. J'ai déjà hâte d'y être.
Beethoven ou l'hymne à la liberté avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert Radio Classique le 16 mai, salle Gaveau à Paris. Réservation sur sallegaveau.com.
Deux géants du piano seront dans quelques jours salle Gaveau. Deux personnalités hors cadre qui ont en commun une maîtrise absolue, des partis pris singuliers, une urgence radicale. Lundi 15 mai, Stéphane Kovacevic proposera un programme Berg, Beethoven et Schubert. Puis mercredi 24 mai, Ivo Pogorelitch interprétera Chopin, Schumann, Sibelius et Schubert. Kovacevic et Pogorelitch, deux récitals événements dans l'intimité de la salle Gaveau, à réserver sur sallegaveau.com.
Vous écoutez Radio Classique.
Connaître enfin Jérusalem, la Terre Sainte.
Éric Emmanuel Schmitt.
Pourquoi partir ? Est-ce que ma vie spirituelle allait changer par mes pieds qui allaient traverser cette terre ? Eh bien oui. Marcher là-bas, où tout a commencé, c'est faire un voyage à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Être à Jérusalem, où convergent les pèlerins de trois religions, c'est être là où Dieu ne dit pas seulement aux hommes « Entendez-moi », mais surtout « Entendez-vous ».
Le défi de Jérusalem, d'Éric Emmanuel Schmitt. Un événement Albin Michel.
Vous connaissez ma femme ? Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
19h, 20h.
L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le Proust. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. Total, et dans l'espace et dans le temps.
Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, après donc Marguerite Duras, le modeste Guillaume Durand dans Dieppoise, extrait de l'album hommage du compositeur britannique Gavin Bryars. C'est le 2008 et ça a été choisi par Marc Lambron. Gavin Bryars, choisi par Marc Lambron dans cette émission hommage à Eric Satie.
Oui, il a 80 ans aujourd'hui. C'est un bassiste britannique qui fait du jazz au début, mais des études de philo, donc assez cérébral. Il a travaillé avec John Cage comme étudiant, mais après beaucoup avec Brian Eno, Tom Waits, Bob Wilson. Il a composé pour le ballet Forsyth ou Carlson, des opéras, des madrigaux, donc assez polymorphe. Il est aussi satrape du collège de pataphysique. Et là, on revient vers un certain absurde ou une ironie satienne. Alors, danse Dieppoise, ça date de 1978 dans un album intitulé Hommage. Pourquoi Dieppoise ? Parce qu'il y a un autre personnage qui pointe, c'est Raymond Roussel, qui allait passer des vacances avec sa mère et sa sœur à Dieppe. Alors vous avez entendu ce thème, qui, ça c'est le Satie grêle, si vous voulez, au piano, mais avec des boucles. Et donc ça va aussi, ou ça procède aussi de la musique répétitive, façon Terry Riley ou La Monte Young, un autre pont finalement de Satie avec un certain Orient.
Vladimir Kosma, promenade sentimentale. Vladimir Kosma qui a réalisé, vous le savez, écrit des dizaines de musiques, de films, mais pas simplement. Cette promenade sentimentale est la BO du film Diva de Jean-Jacques Benext en 1981 et c'est Bertrand Burgala qui l'a choisi. Voilà le charme d'aller chercher sur le clavier une note plus lointaine et en accord avec ce qui était donc donné auparavant, Vladimir Kosma, hein, la bande originale du film Diva de Jean-Jacques Benek. Nous essayons évidemment de vous donner les extraits les plus divers de l'univers de Satie, même s'il ne s'agit pas toujours d'une citation, d'un sample ou même d'une inspiration. Alors Kosma, vous avez écrit dessus Carole Beffa avec plaisir et vous l'avez choisi, Bertrand.
J'ai choisi parce que ça ressemble à un pastiche. Et Kosma en a fait, la musique de La Boum, c'était un pastiche de Gilbert O'Sullivan, où il s'est même approprié la danse acidique dans Rabbi Jacob, qui avait été composée par Philippe Koplowitz. Mais en l'espèce, ça n'en est pas un, parce que on dirait une gymnopédie supplémentaire, mais il l'avait composée pour Salut l'artiste d'Yves Robert en 73, et ça devait être joué par Toots Thielemans à l'harmonica chromatique.
Que j'adore.
Et Jean-Jacques Benex, sur Diva, voulait mettre à nouveau cette scène qui est très importante d'une promenade aux Tuileries, il voulait remettre la version instrumentale de la Wally de Catalani, mais on l'entendait déjà beaucoup dans le film, donc il a demandé à Kosma de faire un morceau, et c'est là que Kosma a eu l'idée de recycler ce thème-là, et c'est Benex qui a insisté pour le laisser au piano, et avec un peu d'écho sur la mélodie, c'est très réussi, et ça a été ce qu'on a pris pour une situation de Satie, je pense que ça n'en était pas une, et ça a valu son premier César à Kosma en 82.
Sévère réprimande, cette fois-ci il s'agit d'Éric Satie. Première des véritables préludes, Flasque pour un chien, c'est Jean-Yves Thibaudet qui est au piano, et c'est Carole qui l'a choisi. Après ces vers réprimandes, donc nous allons passer Jacques Loussier, grand adaptateur de la musique classique au jazz, nous voici dans Knossienne numéro 3. Thank you. ne peut jamais être résumé à sa vie, il est aussi résumé à son mystère. Tout à l'heure, nous parlions de cette espèce de taudis d'arcueil. Il avait entassé ses précieux manuscrits, soigneusement calligraphiés, plusieurs milliers de billets énigmatiques, décrivant un univers au-delà du miroir dont il n'avait jamais parlé à personne de son vivant, y compris ses amis les plus célèbres, comme justement Cocteau, Picasso et les autres, Debussy et Ravel. Hommage fut rendu donc à Eric Satie. Tout à l'heure, nous allons parler de littérature avec Marc Lambron et Josiane Savigno. Pour rendre un autre hommage à un grand disparu, il s'agit de Philippe Solers. C'est bande à part. Mon cher Bertrand, quel bonheur de vous retrouver. Revenez le plus souvent possible.
Avec joie, cher Guy.
Voilà, on sait bien ce que ça fait un peu avec joie, cher Guy.
Il y a un côté un peu communion, comme ça.
Oui, c'est ça. C'est, ça manque un peu de bordel de merde, mais enfin, on peut peut-être y rajouter.
Vous nous donnez le stiche.
Voilà. J'étais tribune des critiques de disques autrefois, dans les années 70.
Eh bien, bon courage pour le livre. Il faut le redonner le titre.
Oui, c'est Les aventures de Sol et Rémy, donc Sol et Rémy avec Eric Satie, et le titre, c'est Le château de Monsieur Gymnopède chez Segers Jeunesse.
Carole Béjean.
Le Théâtre des Champs-Élysées présente le 15 mai prochain à 19h30 Le vaisseau fantôme de Wagner en version de concert sur instruments d'époque, dirigé par François-Xavier Roth à la tête de son ensemble Les Siècles. La distribution rompue aux œuvres du compositeur, avec notamment James Rutherford en hollandais et Ingela Bringberg en Santa, est idéale pour porter les mélodies débordantes de lyrisme et les couleurs mirifiques de ce premier chef-d'œuvre du jeune Richard Wagner. Informations et réservations sur théâtrechamps-élysées.fr.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. Avec Radio Classique et à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous invite au deuxième festival lyrique en mer. Des artistes de haut vol, la révélation Alexandra Marcelier, le ténor Valentin Thiel, la nouvelle Carmen Héloïse Mas, le baryton Alexander York et au piano Antoine Paloc pour la Traviata, Werther, Carmen et un hommage à Maria Callas pour son centenaire.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Envie de voyages musicaux avec des conférenciers passionnants? Les séjours Radio Classique et Intermed sont faits pour vous. La Scala de Milan vous attend pour combler vos envies d'opéra. Baden-Baden vous accueille avec son célèbre festival de Pâques. Évadez-vous pour une escapade musicale à Berlin ou au festival Rossini à Pesaro en Italie. Vivez les plus belles émotions de la musique avec Radio Classique et Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com.
Et si Flaubert n'avait pas livré tous ses secrets ? Radio Classique présente Le dictionnaire amoureux de Flaubert par Régis Geoffrey. Loin de sa réputation d'ermite tourmenté, découvrez le portrait intime et attachant d'un Flaubert authentique, volontiers hableur et exubérant. Une rencontre étonnante avec l'homme qui se cache derrière l'un des plus grands écrivains du 19e siècle. Le dictionnaire amoureux de Flaubert par Régis Geoffrey aux éditions Plon. En vente partout et sur radioclassique.fr.
Du 14 au 30 juillet, le Verbier Festival fête ses 30 ans. Retrouvez les pianistes tels que Yuja Wang, Daniil Trifonov, Mao Fujita, Brad Meldau et Yevgeny Kissin. Découvrez la soprano René Fleming, le trompettiste Wynton Marsalis, le violoncelliste Yo-Yo Ma et bien d'autres encore. Vivez au cœur des Alpes des rencontres musicales d'exception. Plus d'informations sur le programme anniversaire sur verbierfestival.com.
Clara Askill au piano, 1952. Nous passons d'Éric Satie à la disparition de Philippe Solers, à qui finalement tout le monde a rendu hommage dans vos journaux préférés. Y commencer par Marc Lambron qui est à nos côtés et qui est resté bien évidemment, et Josiane Savigno qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle aux côtés de Philippe Solers. Alors le temps passe, c'est quelques jours simplement. L'importance de Philippe Solers, vous avez dit et écrit, Marc, qu'il s'agissait du plus grand romancier français vivant.
Oui,
enfin, je crois. Enfin, vivant. C'est un paradoxe, c'est vrai qu'il vient de disparaître, mais c'est aussi paradoxal pour quelqu'un qui...
Il a vécu 86 ans et il y a plus de 60 ans de carrière, donc et sans jamais se désunir au fond. Donc on a une œuvre considérable, un massif qui n'est pas forcément tout à fait exploré ou évalué, mais avec des livres majeurs et surtout avec une diversité polymorphe, avec une sorte de déesse Siva finalement de la littérature, quelqu'un qui n'aura jamais cédé précisément sur cette exigence, c'était un homme livre.
Vous avez écrit justement dans ce papier que par-delà le bal des vampires, ce qui incite sur ces entre guillemets errements politiques, c'est la première chose qu'il fallait d'abord et avant tout voir dans une œuvre d'un écrivain, ce sont ses livres.
Oui, c'est-à-dire que bon, il a eu comme d'autres le virus politique Mao, enfin communiste Mao dans les années 60-70, mais il en est d'ailleurs sorti, mais avec une fidélité très intéressante à la Chine, c'est-à-dire que c'était le Tao contre Mao. Il n'a jamais au fond dénigré ou démenti l'esthétique, la calligraphie, un certain art d'être qu'il trouvait dans la poésie chinoise. Voilà. Mais il est au-delà de la politique et son papisme qu'on lui a aussi reproché à partir de 1978-79, sa dévotion pour Jean-Paul II était aussi une façon de prendre l'époque à revers et précisément de jouer la transcendance contre la contingence de la pauvreté monodique du discours politique.
Josiane, est-ce qu'il faut, avant que vous parliez de Solers, est-ce qu'il faut recommander à ceux qui nous écoutent 4 ou 5 livres qui vous paraissent importants justement dans cette œuvre?
Écoutez, je pense que Femme a été assez prémonitoire sur le malentendu entre les hommes et les femmes qui n'a fait que s'aggraver depuis.
Ça date de 1983.
83. Moi, il y a un livre que j'adore. Il y a un livre que j'adore, c'est Passion fixe, parce que bien sûr le personnage de Dora est un personnage composite, mais il y a quand même beaucoup dedans de Dominique Rollin qui est le grand amour de sa vie. Et ils ont publié 4 volumes de correspondance. Et moi, c'est un livre qui me touche beaucoup, Passion fixe. Et il y en a bien d'autres. Mais sur ce que disait Marc aussi, qui est très important, quand il parle du maoïsme et de la Chine, c'est que le maoïsme de tel quel était un maoïsme assez intellectuel. Oui. Ça n'était pas le maoïsme des gens qui sont allés s'établir. Non, que je juge les gens qui sont allés s'établir, comme Daniel Rondeau ou d'autres. Mais comme on est sur Radio Classique, c'est moi qui ai choisi Clara Askill. Et je voulais parler un peu de la musique parce que je crois que l'admiration de Solers la plus absolue, c'était celle des pour les musiciens. Il disait, les musiciens ne peuvent pas tricher. Mm-hmm. Que les gens qui écrivent, ils peuvent tricher, mais si tu fais pas les notes, tu fais pas les notes. Après, évidemment, il y a tout autre chose. Alors, j'avais choisi Clara Askill, parce que maintenant je peux l'avouer parce qu'il y a prescription. Pendant le confinement, les journalistes avaient le droit de circuler. Donc tous les soirs, j'allais chercher Solers et on a écouté de la musique chez moi. Donc on a écouté tout le coffret que j'ai de Clara Askill, parce qu'il savait que j'aime fanatiquement Clara Askill. Il l'aimait peut-être un peu moins fanatiquement que moi, mais beaucoup quand même. On a aussi regardé des vidéos de concerts de Martha Argerich dirigées par Daniel Barenboim. Il adorait ça, regarder ces vidéos. Et puis on a écouté du jazz beaucoup aussi.
Cécilia Bartoli aussi, bien sûr. On parle de tel quel, mais il faut aussi parler de la collection L'Infini, il faut aussi parler de jeunes écrivains qu'il a beaucoup soutenus au départ, comme par exemple Yannick Enel. Et puis c'était aussi un homme de lieu, Bordeaux, l'île de Ré et Venise.
Et Venise, mais Venise c'est Dominique Rollin, c'est le lieu de Dominique Rollin. D'ailleurs,
il a beaucoup écrit sur Venise.
Bien sûr, d'ailleurs il y a une plaque à la Calcina, l'endroit où il allait, il y a une plaque à l'intérieur de la Calcina qui dit ici pendant, je sais plus, 30 ans, etc. Philippe Solers et Dominique Rollin sont venus écrire. Mais vous parlez de Yannick Enel, et il y a dans le Nouvel Observateur un texte magnifique de Yannick Enel cette semaine.
Sur Venise, il citait volontiers le mot qui a rendu Casanova célèbre à Paris en une phrase. La Pompadour disait Monsieur, donc à un dîner, elle dit Monsieur, vous venez de là-bas, de Venise? Et il dit Non, madame. Venise n'est pas là-bas, c'est là-haut. Et il regardait ce Venise de là-haut, et Soler, c'était souvent là-haut, ce qu'on peut d'ailleurs lui reprocher, enfin ce que ses détracteurs, en tout cas, lui reprochent, à tort.
Voilà, nous lui rendons hommage.
Je voudrais juste dire un dernier mot.
Mais je vous en prie.
C'est le début d'un livre qui s'appelle Carnet de nuit, où il a retourné un proverbe, et je trouve qu'il faut essayer de se souvenir de ça, c'est « Pour vivre caché, vivons heureux ».
Et une dernière musique qu'il écoutait, La Selva Morale et Spirituale de Monteverdi. Et là, qui est une musique ascensionnelle, tournoyante, mystique, magique.
Josiane Savigno et donc Marc Lambon. Nous avions parlé pendant cette émission, nous avons parlé d'Éric Satie et de Philippe Solers. C'est bon la part, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un grand musicien de jazz, trompettiste Éric Truffaz.